Bonjour à tous. Alors, on est vraiment ravis de recevoir ce samedi 10 octobre Paul Colise, qui vient nous voir pour son dernier roman qui vient de sortir il y a juste 2 jours, Concerto pour quatre mains. Alors, nous l'avions déjà repéré avant, mais on pensait que c'était son 3e roman, parce qu'on l'avait connu avec Backup et Un long moment de silence, L'avocat le nain et la princesse masquée, donc on pensait que c'était le 4e roman. Eh bien non, pas du tout. Il en a fait, c'est votre 11e roman en 15 ans, j'ai compté.
C'est le 11e, oui.
Vous avez commencé à vous auto-éditer avant de passer à des éditeurs et de passer jusqu'à Fleuve Noir dernièrement. Vous avez eu de nombreux prix justement qui vous ont distingué. Donc Backup, vous avez eu qui est sorti en 2012 et 2013 chez Folio. J'ai noté lauréat du prix Saint-Maur en poche, finaliste du prix Victor Rossel, qui est l'équivalent du Goncourt en fait en Belgique, parce que vous êtes belge. Ça s'entend pas encore, mais ça va s'entendre.
Ça
un long moment de si. Non.
Ils ont été traduits. Hein. Ils ont été traduits,
c'est pour ça.
Belge en français.
Un long moment de silence en 2014 en poche chez Folio, lauréat du prix Landerneau Polar, prix de voleur de l'imaginaire, prix du Polar Pourpre, finaliste du Grand Prix de littérature policière. Une fan vient de m'apprendre qu'il était finaliste aussi au Quai du Polar et finaliste du prix Rossel aussi. L'avocat, le nain et la princesse masquée, qui était un gros coup de cœur, et c'est là qu'on a eu vraiment envie de vous recevoir quand on a fait nos Mola Polar. En 2015, donc chez Pocket, et c'est avec donc ce livre que vous êtes présent aussi chez nous. C'est sorti en mai 2015 chez Pocket, et donc surtout avec Concerto pour quatre mains, qui a été donc notre coup de cœur d'octobre, un vrai grand coup de cœur. Et c'est avec un grand plaisir que nous allons vous cuisiner pour notre 10e rendez-vous de Polar 2. Alors vous avez, vous aimez dire de vous que vous habitez dans le seul village belge que les Français connaissent.
Tous les Français connaissent.
Voilà, je vous laisse l'assistance réfléchir.
Voilà, réfléchissez.
Rendez-vous à la fin. Le seul village belge que les Français connaissent.
Que tous les Français connaissent.
Que tous les Français connaissent.
Tous.
Ouais,
c'est une énigme.
Voilà, ouais. C'est voilà. une énigme
quand
policière.
Quand vous avez une idée, vous pouvez lever la main et
voilà. alors, première question, comment est-ce que vous vivez, parce que vous n'avez pas renoncé à votre premier métier, mm-hmm. Vous êtes consultant dans une grande boîte. Comment vous vivez ce succès, donc justement cette reconnaissance et cette fidélisation du public et des lecteurs?
Bon, alors d'abord j'ai arrêté de travailler. Mais pas pour écrire, hein, donc tout simplement j'avais. C'était un des plans que j'avais fait dans ma vie, c'est à un certain moment d'arrêter de travailler. J'ai commencé à travailler à 18 ans, hein, donc, et j'ai dit, après 42 ans de travail, je me dis, je vais arrêter, et j'ai arrêté. Donc j'ai suivi, j'ai atteint mon objectif, et voilà, donc ce qui me laisse plus de temps pour faire d'autres choses. Mais pas nécessairement écrire, mais je fais plus de choses. Et quant au succès, j'ai vidé la vaisselle, j'ai sorti les poubelles hier, donc il n'y a pas de grande différence pour moi. Ma vie est toujours la même.
Et comment justement vous en êtes venu à l'écriture et à l'écriture de romans policiers, puisque c'est un genre en soi, comment est-ce que ça a toujours été déterminant pour vous?
Alors bon, moi je suis né avec le polar, donc c'est-à-dire que quand j'avais 10 ans, je lisais déjà des polars. Donc je lisais les polars de ma grand-mère, donc elle m'envoyait à la bibliothèque chercher des polars. Elle me disait toujours, prends ceux avec la couverture noire ou la couverture jaune, et surtout tu ne peux pas les lire. Donc j'allais à la bibliothèque, je louais des polars pour ma grand-mère. Et sur le chemin du retour, comme je ne pouvais pas les lire, je les lissais. Et je trouvais ça fabuleux, parce que moi, bon, à l'école, on était avec le grand môle, premier de cordée, vous voyez les trucs, les bouquins de 6000 pages, interminables. Et donc je trouvais que c'était quand même plus excitant, un polar. Donc ça, c'est venu très tôt, l'amour du polar est venu très tôt. Et donc je me suis mis à écrire, alors que ce n'était absolument pas prévu dans mon plan. Justement, quand j'ai eu un changement dans ma carrière professionnelle, puisque je travaillais dans un groupe international, et un jour on en avait marre de travailler dans ce groupe parce qu'il avait été repris par des Hollandais. Bon, il faut savoir que historiquement, les Belges et les Hollandais. Bon, hein, et donc on ne sait pas. Ah oui, mais enfin, il n'y a pas de Hollandais dans la salle? Oui, proche. On a une frontière commune, ça c'est clair. Voilà. Mais là s'arrête la proximité. Ben non, elle l'a foutu dehors quand même en 1835. Hein, donc, bon. Et donc, on ne s'est pas entendu avec les Hollandais. Et à 5, on a décidé de quitter l'entreprise et de former notre propre société. Et là, vous avez toujours deux options. Bon, vous avez soit l'option noble et altruiste qui consiste à donner sa démission, le cœur sur la main. Et la seconde, qui est la version hypocrite, qui consiste à essayer de se faire foutre dehors. Donc, nous avons choisi la version hypocrite. Et ça a très bien fonctionné. Donc, on a monté un coup d'État qui a parfaitement fonctionné. Donc, tout le monde a été mis dehors avec de l'argent. Donc, ce qui veut dire que les Hollandais ne sont pas si intelligents que ça, parce qu'ils n'ont rien vu venir. Et donc, c'était tellement intéressant, amusant, qu'on en reparlait tout le temps. Et on disait toujours, à la fin, quand on avait bien rigolé, il faudrait qu'on écrive cette histoire, parce qu'on ne va pas s'en souvenir. Et un été, j'ai dit... Cet été, j'écris cette histoire. Bon, ils m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre, mais je l'ai écrit, cette histoire, l'histoire de notre coup d'État professionnel. Et puis le virus est venu. Donc j'ai écrit ce premier bouquin comme ça. C'était 150 pages, mais je me suis tellement amusé pendant l'écriture que dès qu'il était terminé, je me dis, il faut que je continue. Bon, je ne pouvais pas faire la suite. Et comme j'avais quand même un fond polar 2, puisque j'ai lu des centaines et des centaines de polars, je me dis, je vais écrire un polar. Voilà. C'est comme ça que c'est venu.
Et justement, des polars avec un côté, on le voit, on le perçoit quand vous nous en parlez, un côté très, très, très rigolo, quoi. Enfin, voilà, il y a un côté toujours, même si ça peut être noir, même si Concerto peut être un vrai roman de gangster aussi, c'est aussi, est-ce que plusieurs facettes qu'on habite en vous. Est-ce que vous ne faites pas les distinctions? Vous n'aimez pas les étiquettes?
Non, j'aime pas les étiquettes, d'une part. Mais d'autre part, je pense que c'est comme ça dans la vie. Bon, on a des jours où on est de bonne humeur et on rigole pour un rien. Puis le lendemain, on est de mauvaise humeur, on tire la tête. Donc, c'est jamais tout noir, c'est jamais tout... c'est jamais une farce. Donc, mais c'est ça. Donc, ici aussi, c'est vrai, il y a des moments où c'est plutôt détendu, où c'est plutôt amusant, et puis il y a des moments de tension. Mais je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne. Ben voilà, donc on a les sautes d'humeur, il y a des moments où tout va bien, puis il y a des moments où tout va pas bien. Donc, je retrouve ça. C'est ce que je mets dans les bouquins. Donc, c'est la vie de tous les jours.
Parce que justement, quand on a lu L'ombre en silence, qu'après on s'attaque à l'avocat, le nain et la princesse masquée, donc tout est dans le titre déjà. Ouais. C'est vrai qu'on a un grand choc, on se dit mais c'est pas le même auteur, quoi. Et pourtant si. Et puis ça fonctionne très bien. Et puis dans Concerto, vous arrivez à mêler justement avec des touches d'humour qui sont savoureuses aussi. Donc c'est un vrai plaisir de vous lire.
Merci. Merci.
C'est vrai que votre palette est étonnante parce que entre le roman de gangster le dernier, la comédie de l'avocat du nain, le thriller que j'ai trouvé terrible et excellent sur fond de nazisme, traco-nazi. Mmh. Enfin, je trouve ça très étonnant parce que vous avez des univers différents. Après, ce qui traverse tout, il me semble que c'est la musique aussi.
Oui. Enfin, dans quelques-uns. Donc, pas nécessairement. Donc, la musique fait partie... Oui. Même chose, ça fait partie de notre vie. Donc, il est très difficile de passer une journée sans musique. Donc, que ce soit la radio, la télévision, n'importe quoi. Donc, on est baigné de musique. Et donc, ça, c'est une dimension supplémentaire que j'aime bien mettre. Je l'ai mise en particulier dans Backup, sur le rock'n'roll.
Oui, c'était étonnant. Oui.
Bon, ici, un peu plus sur la musique classique. Mais ce n'est pas une composante incontournable. Donc, je n'ai pas comme contrainte, dans chaque bouquin, il doit y avoir de la musique. Absolument.
Dans chacun, j'ai trouvé des occurrences. Alors, je me demandais si vous écriviez en musique, même.
Ah non, justement, dans le plus grand silence.
Un grand moment de silence.
Oui, il me faut le silence total pour écrire.
D'accord. C'est vrai que votre diversité de temps est étonnante. Je n'avais pas l'impression de lire le même auteur.
Oui, ouais. Mais c'est ça. Bon, d'abord, je n'ai pas de personnage récurrent.
Oui.
Sauf un, mais bon, qui est sur deux opus, et je ne pense pas que je l'aurais... Donc, je n'ai pas de personnage récurrent, parce que déjà, pour moi, c'est déjà une contrainte. Je n'aime pas les contraintes. Donc, l'idée de devoir reprendre le même personnage avec ses mêmes codes, ses mêmes... Donc, je n'ai pas envie. Et l'idée de faire des suites ne me plaît pas non plus. Donc, Mais j'aime bien les grands écarts. Quoi. J'aime bien passer de quelque chose de très sombre, comme Un long moment de silence, à quelque chose de complètement déjanté, comme L'avocat, le nain et la princesse masquée. Bon, maintenant, ici aussi, donc, je suis dans un bouquin avec trois fils, finalement, dans Concerto. Le prochain, c'est linéaire. Donc, il est à moitié terminé, François, c'est déjà... Voilà, donc, oui, j'aime bien changer. J'aime bien changer de personnage, de milieu, enfin, bon, j'aime bien tout changer.
Oui, c'est bien parce que votre lecteur est surpris, hein, à chaque fois. Qu'est-ce qu'il va nous faire?
Qu'est-ce qu'il va nous pondre, oui, cette
fois? Et vous gagnez des lecteurs aussi en prime, quoi, parce que, justement, ce côté inclassable et iconoclaste, vous pouvez plaire à plein de types de lecteurs. Dans la salle, il y a plein de types de lecteurs et qui se reconnaissent dans vos... Donc voilà, parce qu'en même temps, c'est vrai que quand on finit, il faut aller jusqu'au bout du roman, jusqu'à la dernière note au lecteur, au remerciement dans le dernier, au long moment de silence qui étreint le lecteur quand on ferme la dernière page. C'est un coup de poing, quoi. C'est vrai que ce sont à chaque fois des partitions vraiment millimétrées, quoi, comme les braquages, d'ailleurs. c'est vraiment étonnant, quoi. En même temps, avec une écriture, une à la fois fluide, élégante, des intrigues, oui, sophistiquées. Enfin voilà, vous avez, c'est une.
Elle en parle bien. Hein.
Non, mais c'est vrai que c'est un vrai moment de plaisir, quoi. C'est le cas.
Merci.
Moi, je voulais savoir si vous aviez un intérêt particulier pour les faits divers. Parce que dans Concerto, vous vous intéressez mm-hmm. à ce fameux braquage mm-hmm. sur l'aéroport de Bruxelles, sans effusion de sang, 8 hommes cagoulés qui arrivent sur le tarmac, qui s'emparent de la cargaison des diamants bruts. Mm-hmm. Dans Un long moment de silence, traco-nazi à partir d'une organisation que vous déguisez le chat, qui a vraiment existé sous un autre nom.
Ouais,
dans L'avocat, le nain et la princesse masquée, on peut reconnaître certains personnages existants. Donc, entre fiction et réalité, des fois, le lecteur ne sait pas trop où vous le trimballez.
Oui, tout à fait. Et donc... Parfois, donc, par exemple, dans Backup, je mélange énormément des vraies anecdotes de l'histoire du rock et l'imaginaire. Moi-même, si je relis certains passages de Backup, je dis, attends, ça c'est vrai ou c'est pas vrai, quoi.
Ah oui.
C'est ça. J'adore ça. Et parfois, dans le même paragraphe, il y a un truc qui est vrai, un truc qui est imaginaire. Alors, ce qui est amusant dans cette histoire-là, c'est dans Un long moment de silence, il y a du vrai et de l'imaginaire. Donc, un journaliste, que je ne citerai pas, d'un grand journal, que je ne citerai pas non plus, a dit le fameux attentat du Caire de 1954, dont tout le monde se souvient, mais qui n'a jamais existé. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que... Dès le moment où on met quelques chiffres, des dates précises, etc., donc on se dit, ouais, ça peut que exister.
Mais en même temps, c'est dû à votre style, parce que vous faites un style très hyper réaliste, hyper documenté. On va y revenir sur vos recherches. Enfin voilà, on a l'impression de le vivre en direct, quoi. Mm-hmm. C'est impressionnant. Même dans Concerto, les braquages, les nastins qui sont fictifs, mais on le sait que si on fait des recherches nous-mêmes, quoi.
Oui, enfin, j'ai essayé de recenser aussi là, les braquages.
Je dirais qu'ils n'ont pas encore été faits.
Mais... Qui n'ont pas encore été faits, voilà. Qui ne devraient pas tarder.
C'est une question de semaine. Donc on monte l'équipe pour l'instant. On monte l'équipe, mais ça va se faire. Ça va se faire.
Alors justement, d'où vous partez? Donc vous partez de faits divers, vous les agencez avec votre propre imaginaire. Et est-ce que vous appuyez sur des choses vraiment... sur des rencontres, sur des voyages, sur des choses réelles que vous avez vécues, vous?
Oui, alors, oui, bon, moi, j'adore ça. Donc ça, c'est une partie que j'adore. C'est de découvrir quelque chose que je ne connais pas nécessairement. Mmh. Donc, par exemple, dans un ancien opus, c'était le baiser de l'ombre. Moi, je ne connaissais rien sur les peintres viennois de 1900, Klimt, Kokoschka, tous ces types-là. Bon, je connaissais, parce que tout le monde a un calendrier de Klimt dans sa cuisine, mais je ne connaissais pas du tout. Et se plonger dans quelque chose qu'on ne connaît pas est quelque chose que j'adore particulièrement. Donc, la partie documentation, qui pour certaines personnes peut être plutôt pénible, est pour moi quelque chose d'extrêmement agréable. Et donc il y a la documentation et puis il y a la rencontre. Donc j'aime bien, c'est pour ça que je prends souvent Bruxelles comme toile de fond de mes romans, parce que j'habite à Bruxelles. Donc c'est quand même plus simple d'aller jusqu'à la rue des Mostaines pour voir comment un commissariat que d'aller à New York pour décrire Central Park. Donc ça, c'est la facilité. Mais aussi, il y a les personnages. Donc, et dans Concerto, il y a deux personnages que j'appelle mes directeurs techniques, sans lesquels ce roman n'aurait pas du tout d'impact ou d'aspect authentique. Ce sont donc, c'est un avocat pénaliste qui m'a aidé dans toute la partie juridique, toute la partie pénale, toutes les procédures, tous les dysfonctionnements de la justice. Ça, c'est un personnage important.
C'est lui qui inspire donc Maître Jean Villemont.
Jean Villemont, il s'appelle Pierre Monville dans la réalité. Et il se ressemble très fort. Hein, donc, oui, physiquement.
Vous leur avez prêté des traits communs, vraiment. Ouais.
Et l'autre est un personnage assez extraordinaire, puisque c'est un braqueur dans mon livre. Et c'est un braqueur que j'ai rencontré, donc avec qui j'ai sympathisé. On est devenus amis. Braqueur repenti, hein, je vous le dis tout de suite.
On se demandait.
Voilà, braqueur repenti. Pardon ? Oui, on dit que dans 95% des cas, il rechute. Hein, mais lui, jusqu'à présent, ça va. Et donc, lui, je pense que sans lui, ce bouquin n'aurait pas du tout ce caractère authentique. Donc, lui, il m'a vraiment aidé de A à Z sur toute la partie grand banditisme, braquage. Parce que j'avais 5000 questions. Comment est-ce qu'on se procure les armes? Comment on monte une équipe? Comment on braque un fourgon? Qu'est-ce qu'on fait avec le butin? Enfin, donc, 5000 questions. Bon, sauf si vous avez déjà fait un braquage dans votre vie. Mais ce sont des questions. Voilà, moi, je ne sais pas du tout. Et donc, il y a quand même une anecdote par rapport à ce braqueur. Donc, ce braqueur a décidé, il y a quelques années, de tourner la page, de se lancer dans le cinéma, dans la bande dessinée, d'écrire une biographie, d'écrire un roman. Et il a lancé tous ces projets qui sont arrivés, en effet, à terme. Et donc, il a trouvé un producteur, il a écrit un scénario de film, il a trouvé un producteur. Et avec ce producteur, ils ont été à Paris pour faire un casting. Dans le casting, il a rencontré Joe Starr. Vous voyez qui est Joe Starr ? Et quand il est rentré en Belgique, mon ami François Troukens, son agent de probation l'a appelé en disant « Monsieur Troukens, dans votre liberté conditionnelle, il vous est interdit de rencontrer d'anciens détenus. » Il dit « Oui, je sais. Bon. Mais vous avez rencontré Monsieur Joe Starr, ancien détenu. Bon. » François Troukens rigole en disant, écoutez, c'est un casting, il y a 30 personnes, c'est à Paris, c'est dans le cadre d'un film, rien à voir avec, on n'a pas monté un braquage. Monsieur Troukens, je veux bien, mais article 8, il vous est interdit de rencontrer d'anciens détenus. Donc, votre conditionnel saute et vous retournez en prison. Et il est retourné en prison. Donc, il a dû retourner en prison et redemander à nouveau sa liberté. Bon, bref, il a dû refaire toute la procédure qui, en principe, prend 3 mois, qui peut aller jusqu'à 6 mois, mais il a passé 8 mois en prison. Et donc, comme c'était tout au début de notre collaboration, donc ce livre a été en grande partie écrit dans le parloir de la prison de Ittre. Donc, puisque j'allais le visiter tous les lundis, je passais 2 à 3 heures à la prison d'Ittre avec lui dans un parloir et on a... Dans ce parloir de la prison de haute sécurité de Ittre, on a imaginé des braquages et des casses. Donc c'est le monde à l'envers, mais c'était... Et donc les plus beaux braquages qui sont dans le bouquin ont été conçus dans le parloir de la prison de haute sécurité de Ittre. Donc c'est comme ça. C'est une histoire belge. Hein.
C'est votre bébé parloir, quoi, le concerto pour 4 mains.
Ouais.
C'est ça.
Oui, c'est étonnant. C'est vrai que dans les scénarios de casse incroyable qu'il y a dans le bouquin, j'essayais de recenser la part de vrai, la part du faux, en listant, mais je me suis fait avoir, hein, je suis sûre.
Oui, tout à fait. Alors, il y en a plusieurs qui sont là. Le plus incroyable, selon moi, enfin, ceux que les lecteurs vont me dire, bon, là, M. Collet, vous avez été un peu loin, hein, ou Paul, tu as été un peu loin. Parce que ça a l'air d'être un jeu d'enfant, celui-là est authentique. Bon, je ne vous dis pas lequel c'est, mais celui qui semble le plus surréaliste, vu tout ce qui a dû être neutralisé comme système, etc., celui-là est parfaitement authentique. Il a été retranscrit quasiment minute par minute sur tout ce que l'équipe a fait pour réaliser ce braquage. Mais je ne vous dis pas lequel c'est.
Ouais, d'accord. Je mènerai l'enquête.
Ouais, voilà.
C'est vrai que quand j'ai fait mon coup de cœur sur vous, sur le dernier livre pour le Mola Polar sur le site de la librairie, je me disais tout ce qu'il ne faut pas inventer en tant que braqueur, faire preuve d'astuce, oui, oui, d'imagination, pour essayer de trouver le petit grain de sable qui va arriver à tout enrayer dans la superbe mécanique policière et mécanisme de sécurité.
Exactement.
Et vos livres sont montés justement comme des petites mécaniques implacables aussi. Hein.
Oui, mais c'est ça. C'est exactement ce qu'il m'a dit, c'est que donc, quand on monte un CAS, bon, d'abord, aujourd'hui, pour être braqueur, il faut avoir fait des études. Hein, donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Hein, donc mais il faut travailler toujours sur deux plans. Il faut travailler sur le premier plan, c'est on monte le CAS. Et sur le deuxième plan, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la police. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, la police, surtout la police scientifique, est redoutablement organisée. Et donc, il faut vraiment travailler sur ces deux plans. C'est, y a le CAS, mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'ADN, les empreintes, enfin, tout le truc, les écoutes, etc., pour fausser les pistes. Et donc, il y a soit les précautions, soit les leurres. Et donc, les leurres, je trouve très amusant, c'est faire brûler une bagnole. Donc, on fait un braquage avec une voiture et on prend la même voiture qu'on fait brûler à quelques kilomètres. Donc, comme ça, les hélicoptères voient, une Volvo blanche, là, qui brûle, c'est eux. Tout le monde va là et ils foutent le camp de l'autre côté. Donc, ce sont des leurres.
C'est malin, oui.
Et ça, je trouve extraordinaire.
Moi aussi,
ce travail est sur deux niveaux.
Après, votre braqueur, il est quand même atypique. Bon, c'est un cerveau, c'est l'organisateur de la bande. Mm-hmm. Ce que j'aime beaucoup dans vos livres, c'est qu'en toile de fond, il y a aussi toute l'épaisseur du personnage. Son passé, comment il en est arrivé là, mm-hmm. sa jeunesse. En fait, il devient braqueur parce qu'au départ, il y a une désillusion. Il est enfant de cœur. Est-ce que vous voulez raconter cette anecdote? Et petit à petit, ça va aller crescendo, en fait.
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Bon, il a ça en soi, mais comme tout le monde, hein, parce que vous avez tous fait un braquage dans votre vie.
On a tous du potentiel.
Oui, vous avez tous... Voilà, deux. Voilà, monsieur deux, oui. Non, mais ça commence par un bonbon qu'on pique chez l'épicier ou un truc comme ça, ou dans 20 balles qu'on pique dans le portefeuille de papa ou maman. C'est un braquage, soyons clairs. voilà. Et donc, soit on se fait prendre, et bon, à ce moment-là, on arrête, soit on ne se fait pas prendre et on continue. Et donc, ça, c'est l'idée de départ. C'est lui, il voit un billet de 5 000, il est enfant de cœur, il voit un billet de 5 000, c'est comme on pique sous, vous savez, avec les dollars dans les yeux. Et,
c'est à la quête à l'église, hein, le billet de 5 000.
Et il devient fou, quoi. Il devient fou et il veut ce billet. Et il imagine, donc, parce qu'il a, je ne sais pas quel âge il a, 12 ans, un truc comme ça. Il dit, mais avec un billet de 5 000, moi, c'est ma vie complète, quoi. Hein. Donc, il imagine tout ce qu'il peut acheter avec 5 000 euros. Il peut s'offrir des vacances. Vous imaginez, enfin, 5 000 euros, non, c'est 5 000 francs belges. Hein. Donc, 5 000 francs belges, c'est 125 euros, oui. Donc, c'est rien du tout, quoi. Hein. On va au restaurant et c'est fini. Hein. Mais bon, lui, il s'imagine qu'avec ça, il peut changer toute sa vie. Et bon, donc là, le virus est là. Le virus est là. Et puis, bon, ça va se développer. Et puis, on va assister à sa montée en puissance vers le casse du siècle.
C'est-à-dire, c'est l'injustice du curé qui récupère le billet aussi.
Oui. Mais alors ça, c'est authentique. Hein.
C'est vrai ?
Je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu.
Et donc, c'est une vengeance pour ne pas se faire spolier, en fait.
Ouais.
Comment je peux faire pour organiser le coup parfait ?
Oui, c'est ça. Oui, il y a une sorte d'appât, d'attraction ou d'attrait sur ce billet. Et puis, il y a le fait que c'est le prêtre qui le fout dans sa soutane. Donc, c'est un deuxième truc. Et puis, il y a l'adrénaline aussi.
Ah oui, voilà.
Donc, et ce sont les composantes qui font qu'à un certain moment, on part en vrille.
Après, il y a l'anecdote aussi avec son meilleur ami, Alex Krozanovic, avec lequel il monte un truc incroyable d'arnaque au tamarin pinché. J'ai ri toute seule. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette anecdote, parce qu'elle est vraiment, vraiment.
Oui, elle est authentique aussi.
Ah bon?
Oui, elle est authentique aussi. Oui, donc
il nous piège.
Oui, il nous piège.
Oui, non, c'est authentique. Enfin, ça a été fait, mais pas avec le tamarin à pincher, avec autre chose. Je crois que c'était avec les bébés phoques ou un truc comme ça. Bon, il y a des phénomènes de mode. Hein. Il y a eu les bébés phoques, et puis il y a eu le pauvre lion là, qui s'est fait. Donc, c'est pas très difficile de faire appel à la bonté des gens en les faisant un peu pleurnicher. Et pour les faire pleurnicher, rien de tel que les animaux. Donc, eux, ils ont imaginé un truc. Ils ont pris c'est un petit singe ou un truc comme ça, disant qu'il est en voie d'extinction, et ils ont fait une association pour aider le tamarin pinché à survivre. Et bon, ils font pleurer les gens. Ils disent, oh, le pauvre. Bon, en plus, il a la photo, qu'est-ce qu'il est mignon. Regarde ça. Allez, hop. Et voilà, et les gens donnent du pognon. Donc, c'est des arnaques. Mais on est tous piégés avec ce genre d'arnaque. Tous les jours, on se fait arnaquer avec. Mais oui, ce sont des petites arnaques, mais on fait appel à la sensiblerie ou à la sensibilité ou à la sensiblerie des gens. Et les animaux, c'est magnifique. Les animaux, surtout s'il est mignon. Pauvre petite bête, allez, je vous donne un peu, 20 francs, monsieur. Et donc, alors il n'y a plus de limite, hein, dès le moment où tout fonctionne. Continuons.
Oui, des fois, plus c'est gros, plus ça passe, en fait.
Plus c'est gros, plus ça passe. Ouais. La station-service authentique aussi. Hein. Oui, tout à fait.
Alors, en fait, ce qui est étonnant dans votre personnage, c'est que lui, sa finalité, finalement, ce n'est pas l'argent. Et vous le dites très bien, d'ailleurs, dans le passage de la page 301, c'est l'adrénaline.
Oui.
Oui.
Oui, oui. Du coup, je vais lire ce passage parce que j'ai trouvé ça... voilà, quelle est en fait sa motivation ? Il réfléchit au sens de ses actes. Depuis le premier billet de 5000 francs, dont on vient d'en parler, qu'il avait convoité à l'église, jusqu'au dernier braquage d'Archot, l'argent n'avait jamais été la finalité. Comme les fanatiques du bungee jump, les fous qui se lancent dans le vide la tête la première, ou ceux qui dévalent les pentes enneigées à plus de 200 km à l'heure, il était adepte d'un sport extrême. Comme eux, il recherchait la prodigieuse décharge d'adrénaline plus addictive que la plus addictive des drogues. Comme eux, il voulait aller plus loin, plus vite, plus haut, et avait besoin de flirter avec la mort pour se sentir vivant. Le montant des butins qu'il empochait était son indice de performance.
Oui, c'est exactement ça. Donc c'est ça, c'est le donc s'il y a un casse demain de 57 millions, l'idée c'est, moi il me faut que je fasse au moins 60 millions. Donc ça mais on s'en fout, c'est pas la hauteur du butin et ce qu'on va en faire. C'est l'indice de performance. Ce casse-là, il vaut autant. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'est. Le casse du siècle, c'est ça. Le casse du siècle, ce n'est pas sur l'intelligence ou l'ingéniosité des braqueurs, c'est sur le butin. Donc, le casse du siècle, c'était Spaggiari. Et puis, il y a eu mieux. Puis, il y a eu il y a eu d'abord le Glasgow-Londres, puis Spaggiari. Et donc, c'est chaque fois, c'est le casse du siècle. Il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Hein, au XXIe siècle, il y a eu deux casse du siècle déjà. Hein, même trois, je crois. Donc, chaque fois, c'est le butin qui augmente. C'est la hauteur du butin. Alors, maintenant, bien sûr, il faut mettre ça par rapport à la monnaie de l'époque, etc. Donc, c'est tout un calcul. Hein, c'est un algorithme très important pour avoir le casse. Et donc, c'est ça. C'est l'image, mais c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline que ça... Mais c'est vrai, l'update du BSG, etc., c'est ça qu'ils disent. Hein. C'est l'adrénaline. Ils sont accro à l'adrénaline.
Alors, tant votre personnage, le braqueur, marche à l'adrénaline, du coup, parlant de sport extrême, on pourrait parler de l'avocat pénaliste. Lui aussi, il a un sport extrême qu'il aime. Oui. Du coup, je trouvais que ça se répondait bien. Lui, c'est l'alpinisme qui le fait planer.
Et c'est vrai, ça, le
maître merveilleuse sur la montagne. Oui.
Tout à fait. Alors, donc, Pierre Villemont, l'avocat pénaliste en question, est grand amateur de sommets. Et donc, toute la partie que j'ai mis chez lui, d'ailleurs, sur les sommets, c'est lui qui m'a dit ça. C'est basé. Et il y a même des passages où je le cite quasiment mot pour mot. Sa première ascension du Cervin, quand il est bloqué dans la cheminée, j'ai vraiment repris ces mots. Parce que j'ai dit, pourquoi changer les mots? Puisque c'est vraiment... Il a utilisé ce que lui avait ressenti à ce moment-là. Et j'ai vraiment écouté, j'ai repris exactement ce qu'il m'a dit sur sa découverte des grands sommets.
Oui, c'est des beaux passages parce qu'il y a la poésie de la montagne, oui. Il y a l'humanité aussi qui traverse ces hommes parce que finalement, ces gros durs, ils ont quand même leurs failles.
Bien sûr, bien sûr. Hein. Leurs failles, oui, leurs failles d'une part, mais ils ont aussi, bon, parce qu'on n'en a pas encore parlé, il y a aussi les femmes qui les accompagnent.
Oui, je voulais qu'on en vienne là.
Il y a aussi les femmes qui les accompagnent, et sans lesquelles, d'abord sur lesquelles le roman serait sans doute beaucoup moins... il n'y aurait pas ce piquant, d'une part, et d'autre part, parce que ce qu'ils font, c'est parce qu'ils sont accompagnés tous les deux par des femmes d'exception. Et donc, dans le livre, les femmes sont très importantes. Les femmes sont très importantes, pas sur le premier plan, mais en second plan, les femmes sont très, très importantes dans le déroulement de l'histoire.
Oui, et que ce soit Leïla Nassiri, la consoeur et avocate qui va aider Jean Villemont à résoudre l'affaire, que Julie Narmon, qui va être la compagne, la femme de Franck Jamais, qui va l'aider aussi à une sorte de rédemption, parce qu'il y a une sorte de repentance donc, de ce personnage. Et donc, on ne sait pas jusqu'au bout s'il est vraiment imbriqué, impliqué dans ce casse du siècle. C'est votre côté fleur bleue d'avoir mis dans ce roman de gangster de gros durs, un roman d'amour.
Pas toujours, hein, fleur bleue, pas toujours.
Non, c'est votre côté Tamarin Pinché.
Oui, non, parce que je pense que c'est aussi très, très lié à ce qui se passe dans la vie. Mais ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris, c'est que les grands braqueurs, bon, ce qu'on appelle les beaux mecs, donc, c'est-à-dire vraiment des braqueurs de haut niveau qui n'ont pas de sang sur les mains, donc je ne parle pas de la racaille, donc vraiment des cerveaux.
Des virtuoses.
Ce sont des gens intelligents, forcément, très intelligents, mais ce sont des gens qui ne sont pas des coureurs, ne sont pas des donjuans. Ils ont généralement une compagne. Ils sont très fidèles. D'ailleurs, Jacques Mérine, même chose. Hein. Jacques Mérine, bon, il a eu... mais il avait sa compagne. Et donc, très souvent, il dit les grands gangsters, les ponts du grand banditisme, sont des gens qui ont une femme qui est très importante pour eux, avec qui ils forment un duo. Même si la femme n'est pas active, mais elle fait partie de l'équipe.
Et ça, c'est fictif, les deux compagnes de chacun.
Est-ce que oui, elles sont fictives. Mais
elles participent. Elles participent au braquage. Oui, enfin, chacune. Fait. Enfin, je veux dire. Elles ont un rôle. Voilà quoi. Finalement, elle est ingénieure. Elle est aussi un cerveau. Va aider. Puis après, ils vont se faire aider. Donc, il va y avoir cinq braqueurs. Ils vont se faire aider d'un qui est artificier. Voilà, vous avez toute une fine équipe.
Il y a même des formules mathématiques, hein, parce que pour commencer le cas de parfait, il faut.
Il faut connaître les maths.
Il faut connaître les maths. Enfin, c'était étonnant. Elles sont vraies, les formules?
Ah oui, oui, non, les formules sont vraies, oui, bien sûr.
Et vous dites que tout est vrai, c'est faux.
L'impact sur le camion, l'explosion, tout doit être millimétré. Quoi.
Oui, non, mais ça c'est comme ça. Hein. Ça c'est clair. Si on veut que ça fonctionne, ça doit être répété. Et donc, un casse ne se monte pas en 3 semaines. Hein. Donc, un casse se monte en 7 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. En verse, 2 ans. Si on veut vraiment... si on voit ça comme une œuvre d'art. Hein. Donc, ce n'est pas... Tiens, prends deux flingues, on va... Non, ça, c'est pas ça, quoi. Hein. C'est des braquages, c'est des petits braquages. On voit le truc, là, il est seul, allez, on y va. Mais ce n'est pas ça qu'on parle. Hein. Ici, on... De quelque chose d'envergure.
Et justement, par rapport à la musique et à cette partition millimétrée que vous jouez, parce que votre écriture est très méticuleuse aussi, il y a Franck Jamais, donc le braqueur de haut vol, virtuose de piano, va donner la partition à chacun. Il va donner une partition, il va s'inspirer de la truite de Schubert, c'est ça.
Très étonnant. Ça.
Voilà, c'est très étonnant. Il va donner les 5 portées, il va distribuer les 5 portées à chacun et pour organiser cette.
Oui, mais ça.
C'est le chef d'orchestre, quoi.
Oui, ça, l'idée m'est venue, bon, parce que je joue un petit peu de piano et donc c'est vrai quand on voit les partitions, c'est exactement ça. Donc une partition pour orchestre, c'est voilà, c'est la partition, enfin, bon, elle se déroule. Bon, on a 4 temps ou 3 temps ou 6 temps, peu importe. Mais après ça, il y a toutes les lignes d'instruments. Et donc, les notes doivent être jouées exactement sur le même temps, même si c'est une triple croche. Donc, mais je me dis, mais c'est exactement ça, le braquage. C'est, chacun doit faire quelque chose, chacun a un rôle, il faut bien le définir, et puis il faut le millimétrer, il faut vraiment séquencer sa seconde, je dirais même quart de seconde par quart de seconde.
Mmh. Et le concerto pour quatre mains, alors, ça vient d'où? Ça vient de quoi, alors, cette idée qui, au final, on ne va pas expliquer le final, mais le final qui est explosif d'une certaine façon.
Ah oui, vous réussissez vos fins de façon magistrale.
Oui.
Parce qu'un polar, c'est ça. Hein, voilà. Il faut vraiment lécher la fin. Et vous êtes un des auteurs. Chaque fin me surprend.
Concerto pour quatre mains.
Parce qu'on a l'explication que vraiment à la fin.
Oui. En fait...
Alors qu'il y a 5 braqueurs, on ne comprend pas.
En fait, au départ, c'était concerto pour main gauche.
Ah.
Non, oui, il existe pour la main gauche de Ravel. Et puis, en discutant avec mon éditrice qui est là derrière, pour main gauche, on disait, bon, pour main gauche, ça peut être maladroit. Ça pouvait donner l'idée que c'est une comédie. Et en discutant, on s'est dit, bon, ben, si ce n'est pas pour main gauche, c'est quoi? Et puis, l'idée est arrivée pour quatre mains. Mais donc, si le titre change, tout change. Et je trouve que ce changement est 100 fois mieux que ce que j'avais prévu.
Du coup, la fin, vous ne l'aviez pas prévue?
Non. J'avais une autre fin.
D'accord.
J'avais une autre fin, mais en changeant le titre en quatre mains, j'ai dit, mais alors ça doit être autre chose. Et je trouve, bon, il faudrait que vous lisiez l'autre fin, je trouve que celle-ci est 100 fois mieux que celle que j'avais imaginée, que la première.
D'où l'importance du travail de l'éditeur. Et,
oui, c'est ça.
Voilà, c'est très, très important pour, ouais. Même pour quelqu'un qui, voilà, vous travaillez avec un plan, vous avez une idée de votre... vous avez une trame, les personnages qui sont...
Rien.
Tels, rien du tout.
Je commence.
Puis ah
on,
oui.
On verra.
Ouais. C'est impressionnant parce que vous jouez justement sur deux temps, mm-hmm. très souvent. Et comment vous arrivez pour vous y retrouver? Parce qu'il y a un temps, c'est le temps de Franck Jamais. Ouais. Donc, on a toute la biographie qui se déroule depuis les années 80 jusqu'à actuellement, jusqu'en 2013. C'est raconté à la troisième personne. Mm-hmm. Et on a le temps d'autres chapitres de Jean Villemont, à la première personne.
Ouais.
Et c'est vraiment... comment vous arrivez pour vous y retrouver? C'est un numéro d'équilibre, non?
Non. Ça ne me pose pas de problème. Je passe d'un fil à l'autre quand j'en ai marre d'être sur un fil. Donc, puis c'est bien, évidemment, vous lisez un chapitre. Bon, surtout, ils sont assez courts. C'est 6 pages ou 8 pages, quelque chose comme ça. Donc, vous lisez un chapitre, vous, en 7-8 minutes. Moi, je l'écris en 2 semaines. Donc, après 2 semaines, j'en ai marre. J'en ai marre de ce chapitre. Je l'ai relu 53 fois. J'en ai marre. Et j'ai envie de passer au suivant. Et à un certain moment, j'en ai marre de Jean Villemont. Je ne veux plus voir sa tête. Donc, alors, je passe de l'autre côté. Et donc, je me dis d'une certaine façon que si moi, j'en ai marre, le lecteur, il en aura peut-être marre aussi. Et ça lui fera du bien de passer sur l'autre fil. Et donc, je pense que ça, ce changement donne aussi du rythme.
Oui, du rythme et puis de l'action. Quoi, parce que c'est vraiment l'avocat, le nain et Concerto, ce sont vraiment des romans d'aventure qu'on peut les lire comme des purs romans. Et c'est jubilatoire, quoi, vraiment, pour le lecteur de passer d'un temps à l'autre, d'un personnage à l'autre, même si pour vous, c'est pas, le temps d'écriture n'est pas, est plus long. Quoi.
Oui. Tout à fait. Non, mais moi, j'aime bien avoir... Bon, quand je commence un roman, j'ai environ 5 à 10% de l'histoire en tête. Pas de moi, j'ai quand même quelque chose. Hein. Mais après ça, je laisse les personnages... Et ils changent, Je peux vous dire que Stanislas Kervin, dans Un long moment de silence, entre le personnage du début, qui était une sorte de gentil petit garçon un peu paumé, et le Stanislas Kervin... d'arriver, donc celui qui a fait... je peux vous dire, il a évolué. Hein. Il était gentil, puis non, il est trop gentil, puis il est trop gentil, c'est devenu celui que vous connaissez. Hein. Donc, pas très gentil. Hein.
Non, assez...
Mais donc, il a changé petit à petit jusqu'à devenir... Là, je dis, cette fois-ci, je le sens bien.
Oui, parce que vos personnages, ce n'est pas des enfants de cœur, ça c'est sûr, quoi. L'avocat Hugues Tonon est un
homme délicieux.
Ouais. Un homme vraiment délicieux avec les femmes, tout à fait charmant. Ouais. Il y aura aussi une punition. C'est vraiment aussi des régales parce que vos personnages sont pas des héros, quoi. Non.
Ce sont jamais des flics en tout cas.
Non plus. Ouais. C'est pas des thrillers non plus que vous écrivez. Non. Vous êtes pas dans ce registre-là.
Je n'aime pas les cadavres atrocement mutilés, les tueurs en série. J'aime pas. Mais bon, voilà. Mais oui, je trouve que c'est plus amusant de partir d'un personnage qui pourrait être vous, et donc de mettre quelqu'un. De le plonger dans une histoire qui est trop grande pour lui, je trouve ça très amusant, que ce soit un avocat, un journaliste ou comme Stanislas Kervin, qui est un type, c'est un homme d'affaires, point. Et puis d'un coup, il se retrouve dans une affaire qui le dépasse. Je trouve ça plus amusant parce que forcément, cette personne va se métamorphoser par rapport à ce qui lui arrive qu'un flic dont c'est le métier. Et donc, l'idée d'avoir un flic comme personnage principal n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Je trouve pas ça excitant, parce que c'est son métier, il fait ça toute la journée, donc il a une autre enquête, un peu plus compliquée, un petit peu plus violente. Mais finalement, il fait que son job. Donc, c'est pour ça que j'aime bien mettre autre chose que des flics, par exemple. Mmh. Quant aux tueurs aux séries, Donc, je suis d'abord un lecteur. Hein, donc, moi, après avoir lu, je ne sais pas combien de livres sur les tueurs en série, donc, moi, je ne peux plus lire un livre sur un tueur en série, donc encore moins en écrire. Hein.
Donc, du coup, c'est au fur et à mesure de l'écriture que se dessine la fin dans votre tête, dans la progression de l'histoire
parfois,
qui avance ou comment ?
Parfois, dans les 5 ou 10% que j'ai, parfois, il y a la fin.
Ah, déjà, OK.
Parfois, il y a la fin, oui.
Vous savez où vous voulez arriver, quelquefois. Et ça peut changer.
Oui. Dans le prochain, quand j'ai écrit le premier chapitre, je savais comment il allait se finir. Mais ça peut changer, puisque je suis qu'à la moitié. Hein, ça peut changer. Voilà.
On n'en saura pas plus.
Non.
Vous êtes surtout un fabuleux raconteur d'histoires, je trouve. Hein.
Ah, j'aime bien cette dénomination, en effet. J'aime bien cette dénomination.
Oui, vous avez des histoires étonnantes. Ouais. Le moment de silence, c'est un livre qui m'a hanté longtemps.
Oui.
Quoi.
Ah, oui.
Oui. Oui, bon, c'est un livre un peu particulier dans ce que j'ai écrit, puisqu'il y a quand même une dimension personnelle dans un long moment de silence qu'il n'y a pas dans les autres.
Oui, vous disiez que la malle, elle était chez vous, quoi.
Oui, ça, tout à fait.
C'est une histoire. Vous avez composé fiction et réalité, là aussi.
Oui, non, toute la partie dans un long moment de silence, toute la partie sur la famille polonaise est parfaitement authentique, puisque c'est ma famille. Je parle de ma famille. Donc là, on est vraiment sur la. Donc, j'avais pas besoin de trouver l'histoire, puisque là, je l'avais, l'histoire. Donc, j'ai raconté une histoire qui existe, puisque c'est l'histoire de ma famille.
Et qui est incroyable, non ?
Oui.
Ah oui, tout à fait. Quoi. On ferme le livre, un long moment de silence. On est stupéfait. Quoi. C'est vrai que vos fins sont particulièrement impressionnantes, quoi, vraiment. Vraiment, même dans le concerto, bon, il y a le concerto au final, mais il y a aussi, on comprend aussi.
Il y a trois fins.
Vous le ménagez en plusieurs temps, ouais. et on comprend aussi pourquoi aussi Jean Villemont aussi est adepte d'alpinisme. On le comprend à la fin. Enfin, tout ça, tout a un sens, quoi.
Ouais. C'est très imbriqué.
Par exemple, dans l'avocat, je ne sais pas si dans l'avocat, le bouquin était terminé. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose sur la fin. Et c'est. Il manquait quelque chose. Et donc, c'est comme ça que j'ai transformé le personnage féminin. Bon, j'en dis pas plus pour ne pas spoiler. Mais donc, le personnage féminin qui accompagne.
Hugues Tonon
n'était pas ce qu'elle est à la fin. Elle était tout simplement journaliste au départ. Mmh. Et donc, c'est quand tout était fini que je me dis, bon, il faudrait mettre un dernier rebondissement. Donc, c'est l'avantage de travailler sans plan. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients parce que je dois réécrire beaucoup de choses. Mais l'avantage, c'est que je suis ouvert Donc si tout est écrit, si tout est figé, je vais dire non, ça ne va pas aller parce que ça doit... Donc je suis figé. Tandis que quand, par exemple, quand François Troukens, vers la moitié du bouquin, me dit mais il faut mettre une femme dans l'équipe, je dis non, ce n'est pas prévu. Mais je réfléchis et puis je dis il a raison. Mais donc, parce que l'idée est excellente et donc et je prends l'idée. Si mon plan était fait avec tout ce qui allait se passer avec les cinq types, j'aurais pas pris cette idée probablement et ce serait dommage. Et ce serait dommage. Comme d'ailleurs main gauche ou quatre mains. Donc si tout était écrit, j'aurais dit à mon éditrice non, je suis désolé, écoute, ça va pas parce que c'est comme ça que ça va se finir, etc. Avec la main gauche et voilà. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que je trouve que cette fin-ci est plus belle.
Tout à fait. C'est vrai que c'est particulièrement... à la fois, il y a encore un roman d'action, mais en même temps, ce sont des romans pleins d'émotions. Quoi. Vraiment, on est vraiment dans une aventure humaine aussi, dans ce côté-là. Quoi. C'est vraiment, ce sont vraiment des romans qui ne s'oublient pas. Mm-hmm. C'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation qui nous a fait rudement plaisir. Et deux jours après la sortie du bouquin, c'était vraiment millimétré pour nous aussi. Et alors, pour la petite énigme du début, alors, est-ce que vous avez découvert le village belge
Village.
Le village belge. Que
Waterloo. Ben, mauvais souvenir. Hein,
mauvais souvenir pour nous. Hein. Cuisant. Ouais.
Ce qui est faux, d'ailleurs. Hein. Parce que Victor Hugo a écrit son bouquin sans documentation. Il aurait bien fait de venir. Il est venu, mais Waterloo n'est pas une morne plaine. C'est un plateau, d'abord, et vallonné. Et quand dans Victor Hugo, vous voyez l'infanterie française qui arrive, la cavalerie française qui arrive en soulevant des nuages de poussière, ben c'est faux parce qu'il n'avait plus la veille, c'était de la boue et il n'y avait pas un gramme de poussière quand la cavalerie française... Donc, c'est ça.
Il a raconté n'importe quoi.
Il a raconté n'importe quoi, ce brave homme. Ouais. Ah, c'est plus joli avec le nuage de sable derrière, mais non, il n'avait plus la veille et il n'y avait pas un gramme de sable, hein. Il n'y avait pas un gramme de poussière. Voilà, merci beaucoup.
Merci
à vous.